This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver. Pourquoi la croix du Christ dérange-t-elle autant au point de vouloir l'enlever d'une affiche de publicité pour les Jeux Olympiques ? Au même moment, la coïncidence est surprenante, les chrétiens se préparent durant le carême à revivre le temps de la passion, c'est-à-dire les différentes étapes qui ont conduit le Christ sur la croix. Et de leur côté, les plus grands artistes comme Michel-Ange n'ont pas hésité, eux, à s'inspirer de ces événements à la très forte intensité dramatique. À travers donc un voyage immersif dans l'art, nous tenterons de découvrir le sens de la croix du Christ. Est-elle une folie morbide ou bien une source d'espoir ? Pour parler de tout cela, Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Alors, les invités d'Enquête d'Esprit, le père Philippe Demestre, qui est prêtre à Paris, Daniel Courant, éditeur d'un livre vraiment magnifique sur la Pietà de Michel-Ange, dont on va voir évidemment des photos, et puis Hervé Blanchard, metteur en scène et acteur de La Passion de Ménilmontant.
Et tout cela, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos religieuses de la semaine, Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa, on commence avec la croix, justement celle du Dôme des Invalides qui défraie la chronique.
Absolument Aymeric, cette polémique suscitée par le dévoilement donc de l'affiche officielle des JO, elle provoque l'ire de certains responsables politiques. Éloi Rochebrune revient sur la genèse de cet emblème chrétien.
On la distingue presque jusque dans le reflet de l'eau. La croix du Dôme des Invalides culmine à 107 mètres de haut. Lors de l'inauguration de l'édifice en 1706, c'était le point culminant de Paris.
On peut le regarder comme un historien en disant c'est l'église royale de Louis XIV, puisque c'était une église double pour le roi et pour les soldats.
Quatre statues, les quatre vertus cardinales surplombent le lanternon. Prudence, tempérance, force d'âme et justice. Il a fallu plus de 12 kilos d'or pour redorer l'ensemble à l'occasion du bicentenaire de la Révolution.
C'est un endroit grandiose parce qu'il a été construit pour deux raisons majeures. La première, c'était pour de vieux soldats. Le roi Louis XIV voulait quelque chose de merveilleux pour eux. Donc c'est grandiose parce qu'il le méritait. Et c'est grandiose également parce que c'est l'État qui construisait. Et donc il fallait que ça concoure au rayonnement de la France dans le monde entier.
Le dôme veille sur les pensionnaires de l'hôtel, tout comme le général de corps d'armée Christophe de Saint-Chamas.
Ce lanternon brille le soir. Et en fait, à mes yeux, ce lanternon est le témoin de la fidélité de l'État à l'égard des pensionnaires qui, depuis 350 ans, dans quelques jours, dans quelques semaines, habitent ici à l'hôtel des Invalides.
Le centre peut accueillir 81 résidents. Le général Christophe de Saint-Chamas les connaît, les écoute et les accompagne jusqu'à leur dernier souffle.
Dans le reste de l'actualité, nouveau plaidoyer du pape en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Pense-t-on vraiment construire un monde meilleur de cette façon ? Pense-t-on vraiment parvenir à la paix ? Ce sont les mots du souverain pontife prononcés lors de la prière de l'Angélus du dimanche 3 mars 2024. Au Pakistan, à présent, la situation de la minorité chrétienne est sur le point de s'améliorer grâce à un vote historique du Sénat relevant l'âge légal du mariage. On fait le point sur la situation, la vie des chrétiens dans ce pays avec ce sujet signé Éloi Rochebrune.
Le père Parvez Bhatti est un porteur d'espoir. Dans le diocèse du Pendjab, depuis plusieurs dizaines d'années, il vient en aide aux chrétiens de son pays. Pour une grande majorité d'entre eux, ils sont très pauvres, parfois même réduits à l'esclavage par des riches propriétaires musulmans.
Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Ils vivent sur les terres d'un riche propriétaire. S'ils ont un mariage, si l'un d'entre eux est malade, ils doivent demander de l'argent au propriétaire. Ils accumulent les dettes, donc ils doivent servir comme esclaves toute la journée, parfois de génération en génération.
Le prêtre les accueille dans un village qu'il a fait construire. Chaque famille reçoit une maison et les enfants peuvent aller à l'école.
Les familles sont parfois réticentes à envoyer leurs enfants étudier parce qu'ils les aident au travail. Je dois convaincre ces gens de laisser leurs enfants aller à l'école. Et maintenant, j'ai 300 élèves qui étudient dans mes établissements.
Pour ces chrétiens, la vie peut basculer du jour au lendemain. La législation anti-blasphème de 1986 a instauré un climat de terreur.
Ils peuvent facilement accuser n'importe qui pour n'importe quelle raison. Mais les musulmans eux-mêmes le confessent, 98% des accusations sont fausses.
L'été dernier, des centaines de musulmans ont pris d'assaut le quartier chrétien de Faisalabad, pillant, vandalisant et brûlant plusieurs églises et le cimetière. Une famille locale avait été accusée sans preuve d'avoir profané le Coran.
Retour en France avec la création d'un grand calvaire, projet soutenu par l'évêque du Puy-en-Velay. La famille de Mathieu Bourdillaud met à profit son terrain pour la construction d'une croix, une démarche d'évangélisation, comme il l'explique.
Alors, il y a quelques mois, avec mon épouse, nous avons pris la décision de poser un acte de foi visible et durable par la mise en place d'un grand calvaire sur notre terrain. Ce calvaire, de 5 mètres sur 2, se veut comme le point de départ d'une dynamique d'évangélisation sur notre territoire et aussi le moyen d'unir et de fédérer les catholiques du secteur ainsi que les amoureux du patrimoine. Par la suite, le terrain où sera implantée la croix sera mis à disposition de toutes les organisations de jeunesse comme le patronage des garçons, le patronage des filles ou bien encore les scouts ou les pèlerins de passage.
Et puis une belle image pour terminer ce journal. Emmerich, incarcéré depuis 2020 à Hong Kong, l'homme d'affaires catholique Jimmy Lee a dessiné un Christ en croix dans sa prison. L'œuvre a depuis été diffusée par une université catholique américaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Emmerich.
Merci Somaya Labidi. Pourquoi est-ce que la passion du Christ a inspiré les artistes à travers les âges? On en parle aujourd'hui avec l'abbé Philippe Demestre. Bonjour mon père.
Bonjour Émeric.
Vous êtes prêtre à Paris, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe, c'est dans le 8e. Aussi auteur de « Mourir vivant, une spiritualité de la fin de vie », publié aux éditions Le Laurier. Avec nous également Daniel Courant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Arstella, c'est une maison d'édition qui s'est illustrée notamment en publiant les magnifiques photographies de la Pietà de Michel-Ange, qui se trouve à Rome bien sûr, photographiée donc par Robert Rupka. Vous avez aussi organisé des expositions à partir de ces photos et vous nous direz si la beauté est un bon vecteur pour transmettre la foi. Et puis avec nous également Hervé Blanchard, bonjour.
Bonjour Émeric.
Vous êtes le metteur en scène et acteur de La Passion de Ménilmontant, un spectacle peu ordinaire qui date de 1932. C'est la plus vieille pièce de théâtre à Paris, toujours à l'affiche, où des comédiens amateurs jouent justement cette Passion du Christ. Vous nous en parlerez bien sûr. Et puis Véronique Jacquier, vous nous parlerez de l'histoire et du déroulé d'un chemin de croix bien sûr, qui s'inspire de cette même passion. Alors, je vous propose tout de suite, justement, pour montrer comment est-ce que cette passion du Christ inspire encore aujourd'hui, en 2024, les artistes, eh bien, cette répétition de la Passion selon saint Jean de Bach, qui est organisée à l'affiche à Paris d'ici quelques jours. Regardez, c'est un reportage signé Éloi Rochebrune.
Allier des toiles contemporaines avec un chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est le pari du cœur Effata. Le chef de chœur, Rogatien d'Espaigne, est un passionné de musique sacrée.
Bach prend comme base de sa passion le récit de l'évangile de saint Jean. Et il intercale à chaque moment clé une prière. Et donc en cela, il actualise le message de l'évangile pour aujourd'hui. Et Bruno Desroches fait exactement la même chose en représentant ses contemporains en t-shirt, basket, jean, à côté du Christ, voilà, pour vraiment nous interpeller le spectateur et lui rappeler que le Christ, ben voilà, le message universel et intemporel de la croix.
L'entrée est libre. La trentaine de choristes veut toucher néophytes et amateurs.
Alors, ce qu'on veut leur transmettre, c'est d'une part l'émerveillement devant la beauté de la musique, la beauté des toiles, et d'autre part, un grand amour, une grande gratitude par rapport à l'amour immense du Christ que ces deux artistes ont voulu mettre dans leurs œuvres.
Chanter la Passion est une tradition remontant au Moyen-Âge. En 1724, Jean-Sébastien Bach a composé son œuvre en allemand. 300 ans après, les émotions sont les mêmes.
Il y a aussi dans la musique de Bach quelque chose de très descriptif, c'est-à-dire que quand Bach parle du rideau du temple qui se déchire, et ben on l'entend à l'oreille, un rideau qui se déchire. Et c'est ça très souvent comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très accessible, parce qu'en fait, c'est assez figuratif.
Les trois représentations auront lieu les 15, 16 et 20 mars prochains à l'église Saint-Roch à Paris.
Daniel Courant, que ce soit Bach, Michel-Ange ou tant d'artistes, pourquoi est-ce que ce drame de la Passion du Christ a-t-il inspiré les artistes de tous les temps? On entendait dans le reportage qu'il est universel et intemporel.
Tout simplement parce que c'est le cœur même de la vie chrétienne et le cœur de l'histoire de l'humanité. Et c'est comme ça, je crois, que Michel-Ange l'a non seulement perçu, mais comme vous savez, ce thème de la Pietà l'a accompagné toute sa vie. C'est son premier grand chef-d'œuvre quand il était encore tout jeune, à 24 ans. Et la toute dernière œuvre sur laquelle il a travaillé, 3 jours avant sa mort, c'était encore une Pietà qui est prodigieuse de pathétique.
Père Philippe de Metz, pourquoi est-ce que les chrétiens eux-mêmes se focalisent autant sur ce drame? Est-ce que c'est du masochisme? Pourquoi est-ce que le christianisme en a fait son emblème de la croix, justement?
Mais on dit dans certains chants que la croix est notre fierté. C'est saint Paul qui le dit, cette provocation. Parce que la croix, au départ, c'est un instrument de honte, de supplice, qui est réservé aux esclaves, à ceux qui sont moins qu'humains. Donc en fait, exposer un homme sur la croix, c'est vraiment l'humiliation suprême. Et c'est dans cette humiliation que nous trouvons notre fierté, parce que notre salut, paradoxalement, c'est le scandale de la croix, comme on dit, la folie de la croix, folie qui est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, nous dit saint Paul. Eh bien, c'est ce paradoxe que les chrétiens n'ont pas eu honte d'exposer. Et c'est vrai que quand on y pense, on pourrait dire... c'est pas très vendeur de présenter un homme qui est en train de mourir sur la croix comme instrument de ralliement, comme signe de ralliement. C'est pourtant ce que l'Église a toujours fait.
On va détailler, hein, bien sûr, ce que ça signifie, quel en est le sens. Hervé Blanchard, à travers donc, la Passion de Ménilmontant, hein, qui est un spectacle dont vous allez nous parler dans quelques instants, mais déjà, pourquoi est-ce que ce thème de la Passion, de la croix, reste populaire aujourd'hui, en 2024?
L'ADN de notre spectacle, c'est de le présenter tous les ans, depuis donc 92 ans, d'ouvrir le spectacle à tous, à la fois au sein de la troupe qui rassemble des gens de toutes origines et de toutes religions, et pour aller toucher un public qui nous ressemble et qui vient chercher une connaissance ou une émotion dans notre spectacle.
On va en reparler bien sûr, mais auparavant, Véronique, expliquez-nous justement comment est-ce que les chrétiens se sont appropriés la croix et au point de refaire, de revivre le chemin de croix à travers les siècles, hein, chaque année, notamment au moment du carême. Et puis, qu'est-ce qu'un chemin de croix aussi?
Alors en fait, c'est à saint François d'Assise que l'on doit l'invention du chemin de croix. Il pleurait souvent en pensant à ce que le Christ avait enduré durant sa passion et il invitait les frères franciscains à méditer sur ces événements ô combien douloureux. Alors, les événements, la passion qui commence à la rencontre avec Ponce Pilate jusqu'au Golgotha. Père Philippe de Metz, on va peut-être rentrer dans le détail, mais enfin, toujours est-il que les franciscains étaient chargés à l'époque de la protection des lieux saints, donc en Terre Sainte à Jérusalem, depuis 1220, et ils initiaient les pèlerins qui venaient sur les traces du Christ à méditer sur ces événements douloureux. Il y avait un aspect pédagogique, un aspect méditatif, et donc ce sont eux qui exportent l'idée de cette méditation avec des représentations des temps forts de la passion en Italie, car tous les chrétiens, bien entendu, à l'époque, ne peuvent pas venir en pèlerinage en Terre Sainte. C'est ainsi que naît le chemin de croix avec des stations. Alors à l'époque, on partait de 7 stations jusqu'à 38. Voilà, on mettait un petit peu ce qu'on voulait dans le chemin de croix. Toujours est-il qu'au XVIIIe siècle, le nombre de stations a été fixé à 14, son chiffre actuel. et ce, bien entendu, par le pape. Et comment cette dévotion au chemin de croix est-elle arrivée en France? Eh bien, juste après la Révolution, par les prêtres français qui avaient immigré en Italie.
Et concrètement, comment ça se passe? Donc, 14 stations, on les suit les unes après les autres?
Alors, les 14 stations sont tirées des évangiles, sauf 4 d'entre elles qui relèvent en fait de la tradition. Alors, les 3 qui relèvent de la tradition, ce sont les 3 chutes du Christ avec sa croix dans sa montée au calvaire, 3e, 7e et 9e station. Et puis, il y a la 6e station où une sainte femme, Véronique, essuie le visage du Christ plein de souffrance et de crachats. Les 10 autres stations, la première, Jésus est condamné à mort. La seconde, Jésus est chargé de sa croix. La 4e, Jésus rencontre sa mère. La 5e, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ensuite, la 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Bien entendu, chaque fois, il y a un aspect très méditatif parce qu'il y a un message à méditer. La 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. La 11e, Jésus est attaché à la croix. La 12e, Jésus meurt sur la croix. Et quand on médite le chapelet, à ce moment-là, tout le monde se met à genoux. Enfin, bien entendu, la 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Et la 14e, Jésus est mis au tombeau. Le vendredi saint, jour où l'Église fait mémoire de la passion, du Christ, de cette passion, eh bien, des chemins de croix sont bien entendu organisés dans toutes les églises du monde et des chemins de croix sont aussi organisés à l'extérieur, dans les villes. Chemins de croix de Montmartre à Paris ou à Lyon, bien entendu.
Merci Véronique pour ces explications. Alors il faut dire aussi que cette tradition eh bien, connaît un renouveau, on peut dire, hein, effectivement, que de plus en plus, notamment les jeunes, participent les vendredis de carême. Père Philippe de Maistre, pourquoi 14 stations et pourquoi cette intensité? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont besoin de revivre finalement cette intensité de la passion du Christ?
Oui, vous avez évoqué une des stations qui n'est pas dans les Écritures, mais qui dit profondément ce qu'on vit, Véronique. Véronique, vous savez, cette femme qui va essuyer le visage tuméfié du Christ, et ce visage va s'imprimer, et ça devient la vraie icône. Véronique, c'est la vraie icône, c'est-à-dire la vraie image du Christ souffrant, qui doit se graver, peut-être pas sur un linge, mais dans le cœur. Donc la contemplation fait que l'icône, le visage du Christ souffrant, est déposé dans notre cœur. Et alors pour ça, il faut un chemin. Il faut un chemin dans lequel chaque étape de la passion du Christ peut venir rejoindre chacun d'entre nous, peut-être à une étape de notre vie. C'est pour ça qu'on sera plus ou moins sensible à telle ou telle station, tel ou tel mystère. La Pietà va parler à tous ceux qui vivent le deuil, à tous les parents qui peut-être sont dans la position plus ou moins proche de la Vierge Marie. Donc en fait, c'est ce réalisme de l'Église qui veut incarner, qui veut vraiment... La passion, ça vient de pathos, ça veut dire ressentir, ça veut dire souffrir avec le Christ. Ça veut dire qu'on ne se contente pas simplement de regarder une scène qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais en réalité, on la laisse venir à nous et on la laisse s'imprimer à travers notre sensibilité, à travers notre imagination et profondément dans notre cœur.
Alors, on va regarder un extrait de la Passion de Ménilmontant, justement, puisque aujourd'hui encore, on la représente à travers cette pièce de théâtre, une des plus anciennes de Paris, qui à l'origine durait 7h15. Et effectivement, là aussi, à l'origine, c'est un prêtre qui a écrit ce texte pour un patronage, hein, c'est-à-dire un centre aéré, on dirait aujourd'hui. Regardez cet extrait et puis on parle de la Passion de Ménilmontant juste après.
Non, c'est Barabbas qu'il faut délivrer.
Et que ferais-je de Jésus?
On croit!
Sachez que je ne trouverai lui aucun motif de condamnation. Je l'ai fait flageller, cela suffit.
Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu.
Si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de César.
César veut la justice.
Celui qui se fait roi est son ennemi.
Et regardez-le, votre roi de dérision.
On croit?
Hervé Blanchard, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle, La Passion de Ménilmontant. Est-ce que c'est une histoire qui parle aux jeunes encore aujourd'hui?
Oui, elle parle aux jeunes parce qu'on constate que souvent pendant le spectacle que les jeunes sont très, très, très attentifs. On arrive même à faire asseoir les plus jeunes presque en aide de scène et là, on les voit la mâchoire décrochée. On considère que notre spectacle contribue à la connaissance qu'ils peuvent avoir de la passion du Christ et donc des Écritures.
Véronique.
Alors, à l'origine, le spectacle durait 7h15. Maintenant, on n'est plus capable, d'aller voir un spectacle qui dure 7h15. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'à l'origine, il y avait quand même un aspect très méditatif, on était totalement en symbiose avec le spectacle, et donc on était même acteur, alors que maintenant, on se contente d'être spectateur. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Hein.
Alors, en 1932, voilà, on était dans un fonctionnement sûrement différent. Je serais mal placé pour vous parler, vous témoigner des représentations de 1932. Mais oui, le spectacle était beaucoup plus long, ponctué effectivement de prières. Et il y a eu un tournant à la fin des années 60 où le texte a été complètement réécrit pour donner, construire un spectacle théâtral, une pièce de théâtre avec son fil conducteur, dont certaines scènes sont très proches des écritures, et d'autres scènes pour justement amener, prendre par la main le spectateur, sont écrites complètement dans une écriture collégiale avec toute la troupe. Et puis, La réécriture du texte nous donne aussi un ancrage dans l'actualité. Je ne sais pas si on pourrait recevoir aujourd'hui le texte de 1932. Et je vous passe la durée du spectacle qui, effectivement, serait quand même compliquée.
Alors, il faut dire quand même, c'est 6 mois de répétition, deux fois par semaine, une trentaine de comédiens, tous bénévoles. Hein, donc, vraiment, voilà, il y a un investissement qui est formidable. Père Philippe Demez, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce qu'il y a la question du temps, elle est vraiment intéressante. On approche de la Semaine Sainte. Vous savez que pendant la Semaine Sainte, l'Église, et c'est unique dans l'année, nous fait revivre le timing des dernières heures de la vie du Christ. Alors on essaye de coller, en rigueur de terme, les chemins de croix, on devrait les faire à l'heure, à 9h du matin, et de 9h à 15h, puisque c'est à la troisième heure que le Christ est condamné à mort. On commence par la condamnation à mort, et il y a des lieux où on se déplace sur des kilomètres, et l'aboutissement, c'est 15h, la mort du Christ, avec des stations. Alors évidemment, dans le contexte de la vie à Paris, on va faire ça à midi, pendant la pause, etc. Mais c'est très important de voir que pendant la Semaine Sainte, en fait, on essaye de suivre, dans les 3 derniers jours, le Triduum Pascal, vraiment le Christ pas à pas. Et donc, c'est important que ça se déploie dans le temps. C'est pour ça que beaucoup de spectacles qui étaient inspirés des mystères chrétiens du Moyen-Âge, en fait, vous savez, la mise en scène théâtrale des mystères de la vie du Christ, dans lesquels les fidèles étaient associés. Vous voyez, il n'y avait pas une scène qui était séparée, mais en fait, on participait à la scène. Par la suite, au XVIIe siècle, dans la peinture, par exemple, de Caravage ou de beaucoup, vous avez toujours un personnage dans la scène qui regarde le spectateur et qui l'invite à rentrer dedans, et qui est à la jonction entre la scène de l'Évangile, donc les personnages sont dans la tenue d'il y a 2000 ans, et puis un personnage qui est à la fois spectateur et puis qui est dans les habits du XVIIe siècle et qui nous fait rentrer dedans.
Ce n'est pas un spectacle dont on est un spectateur extérieur, on va
dire.
C'est ça. On va parler, juste après la pub, de cette œuvre magnifique de génie et de foi de Michel-Ange, La Pietà, avec Daniel Courant et tous nos invités. Vous restez à notre écoute. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la passion du Christ. Comment a-t-elle fasciné les artistes à travers les siècles? On va parler de Michel-Ange, mais bien sûr, mais aussi encore aujourd'hui. Et puis, quel sens surtout donner à ce chemin de croix? On en parle de tout cela avec l'abbé Philippe Demestre. Il est prêtre curé de Saint-André de l'Europe, la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris, dans le 8e arrondissement, et auteur de Mourir vivant, une spiritualité de la fin de vie. Finalement, c'est un thème assez actuel, cette passion du Christ, aux éditions Le Laurier. Nous sommes également avec Daniel Courant. Il est directeur de Ars Stella, une maison d'édition qui a illustré, qui a publié les photographies de Robert Hupka de La Pietà de Michel-Ange. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis Hervé Blanchard, le metteur en scène de La Passion de Ménilmontant, la plus vieille pièce de théâtre toujours à l'affiche à Paris, qui se joue en ce moment. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Tout cela en partenariat, bien sûr, avec France Catholique. Alors, cette Pietà de Michel-Ange, parlons-en, puisque Daniel Courant, donc, vous avez édité ces photographies de Robert Hupka. Mais d'abord, l'œuvre de Michel-Ange, vous nous l'avez dit, c'est de sa première œuvre de jeunesse. Il a 24 ans. Où réside son génie. Et est-ce qu'on peut dire que cette Pietà, donc, qui représente la mère du Christ qui le reçoit après sa mort, est une œuvre de foi aussi ?
Bien sûr, Michel-Ange le disait lui-même de toute façon. Et là, bien évidemment, et quelque part, il y a dans la démarche de l'artiste une œuvre de grâce. Comme vous savez sans doute, donc, il a sculpté cette Pietà pendant un an dans le plus grand secret. Il ne voulait que personne ne la voie. Et quand elle a été révélée au public, ça a été la stupeur, le choc. Comment un tel miracle de marbre peut sortir d'une main d'homme ? Et donc ça, c'est d'abord effectivement un prodigieux chef-d'œuvre artistique. Tout le monde l'a salué comme un génie. Mais tout dans ce qu'a créé Michel-Ange montre une démarche et une méditation très profonde sur la Pietà. On en parlera, si vous voulez, à partir de certaines photos, mais tout est intentionnel, y compris ce qu'il y a de plus surprenant, comme le corps du Christ qui est ruissellement de marbre, qui n'est pas du tout un Christ défiguré par la Passion, comme on la connaît dans certaines Pietà, ou par exemple...
En Espagne, notamment.
Voilà, ou Essenheim, etc. Donc tout est très médité, et tout au long de sa vie, l'évolution de ces trois piétas montre un véritable creusement de l'être en même temps qu'il creuse la pierre. Et son évolution spirituelle est totalement inscrite dans ces trois piétas, de façon très impressionnante.
Alors, ensuite, il y a donc d'abord l'œuvre de Michel-Ange, puis les photographies de Robert Rupka. Donc là, on est dans les années 60. Robert Rupka, c'est un photographe qui est d'origine juive, sa mère est catholique, donc il a été éduqué dans la foi catholique.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça a apporté, finalement, ces photographies, à cette œuvre déjà mondialement connue, celle de Michel-Ange ?
Alors déjà, de toute façon, la Pietà, comme vous savez, à l'heure actuelle, depuis qu'il y a eu un attentat contre elle, en 72, quelqu'un l'a agressée à coups de marteau, la Pietà est une œuvre emprisonnée et inaccessible. Derrière une vitre par balle, à 5 mètres, en hauteur,
dans la basilique Saint-Pierre,
personne ne peut la voir.
À Rome.
Et or, Robert Rupka, lui, a eu la possibilité de la voir comme absolument personne d'autre. Il était très, très croyant et très lié à l'archevêché de New York. Il était également très lié aux milieux musicaux et très connu comme tel. Donc quand la Pietà était envoyée à New York pour l'exposition universelle, on lui a demandé simplement de choisir les musiques pour la bande musicale du Pavillon Vatican et de prendre une photo pour l'album Souvenir. Et comme il dit merveilleusement, j'ai voulu prendre la photo de la Pietà. Et à partir de là, je n'ai pas pu m'arrêter. Plus je photographiais, plus je photographiais. Je me trouvais, dit-il, en présence du mystère de la vraie grandeur.
On va l'écouter justement.
Ah, très bien.
Robert Rupka, c'était lors d'une conférence à la Sorbonne.
Non, c'est à l'intérieur de l'exposition que nous avons créé de ces photographies dans la chapelle de la Sorbonne en 97.
Voilà, écoutez Robert Rupka.
Plus je regardais la Pietà, plus je l'aimais. Et plus je la photographiais, plus je découvrais la beauté et le mystère. Ce n'était pas de la pierre, ce n'était pas du marbre, c'était le Christ et Notre-Dame. C'était l'expérience de la présence de la vraie grandeur.
Alors c'est étonnant ces mots « présence de la vraie grandeur ». Père Philippe de Metz, ça vous fait réagir ?
Oui, vous parlez des trois piétas de Michel-Ange et effectivement, la dernière je crois, il y a Michel-Ange qui s'est représenté lui-même.
Si non, c'est la deuxième.
Pas, ou la deuxième.
La Pietà del Duomo à Florence.
Où il est à la place de Joseph d'Arimathie et lui-même porte cet ensemble de la mère qui porte son enfant et qui l'offre à Dieu. C'est très intéressant comme démarche parce qu'en fait, l'artiste lui-même s'implique dedans. C'est-à-dire que lui-même vit le mystère du passage de la mort à la vie et il invite par son art, par son pathos, par son génie, il invite celui qui rentre dedans à le vivre avec lui. Ça me fait penser, vous savez, le film de Mel Gibson, il y a quelques années, où lui-même, le réalisateur, avait voulu symboliquement être le soldat qui enfonce les clous dans les mains une façon de dire que, en fait, il n'a pas fait un film simplement comme une œuvre esthétique un peu froide et extérieure, mais comme une expérience vitale de passage avec le Christ, de la mort à la vie.
Alors, ce qui est étonnant, parce que contrairement à Mel Gibson, où effectivement, là, on a quand même beaucoup de sanguinolents, hein, et de fait, la passion n'a pas été une partie de plaisir. En revanche, Michel-Ange a représenté le Christ, vous le disiez tout à l'heure, Daniel Courant, sans les marques de la passion. Il rayonne d'une certaine manière. C'est très étrange. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Tout simplement, alors, il y a quand même les marques des clous et du côté. Mais le visage, si vous pouvez le montrer à l'écran, le visage n'a aucun des stigmates du calvaire, ce qui est très surprenant et très audacieux. Mais je crois que c'est vraiment une grande intuition spirituelle. Il montre le Christ, la part divine du Christ, qui n'a pas été atteinte par la souillure, la souffrance de la mort. C'est ce que disait le psaume, il était le plus beau des enfants des hommes. Et le prologue de saint Jean ajoute, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. C'est la part divine en lui qu'il exprime de façon très extraordinaire.
Père Philippe de Maistre.
Oui, puis dans la Pietà, il y a le visage de la Vierge.
Alors on y viendra après sans doute aussi, ça répond au visage de la Vierge, bien sûr.
Il est encore plus jeune que Jésus
totalement.
Lui-même. Hein,
venons-en tout de suite. Hein.
Oui, on pense à Claudel, elle plus jeune que le péché. Donc c'est le mystère de l'Immaculée Conception qui est le fruit de la passion du Christ.
Totalement.
Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que si on le regarde comme vous le voyez là, elle jaillit du côté du Christ, comme Ève jaillit du côté d'Adam. Et il y a ce mystère en fait d'une contemplation qui, loin de d'être morbide, nous rajeunit. Parce qu'elle nous purifie et elle nous rétablit dans cette grâce originelle qui est celle de Marie, celle qu'elle nous indique, Marie plus jeune que le péché.
Hervé Blanchard, donc vous mettez en scène hein, la passion du Christ, mais l'attitude de Marie et du Christ, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'artiste ?
Nous, l'objectif est d'apporter de l'émotion à nos spectateurs rien de plus enrichissant, de plus satisfaisant pour nous à l'issue d'un spectacle que l'on vient de nous dire « On était avec vous, vous étiez en communion ensemble à public et spectateurs ». Et puis que l'on vienne nous dire les scènes, certaines scènes m'ont ému aux larmes, le reniement de Pierre a pu m'émouvoir, la prière à Gethsémani m'a transformé et je repars en tant que spectateur avec cette sensation, cette émotion et que l'on soit... catholique ou non catholique, et dans la troupe...
Ça touche,
et les comédiens qui sont catholiques, musulmans, juifs, incroyants, paradoxalement, on contribue à porter ce message, et c'est ce qui fait aussi l'ADN de notre troupe, et qui entretient sa longévité, parce que présenter un spectacle pendant 92 ans, bien sûr, c'est un renouvellement de tous les ans et dans l'objectif de présenter et de juste poser les questions. La réponse, elle est à la liberté de nos spectateurs.
Véronique Jacquet.
Oui, je pense cependant que jouer dans une pièce qui représente la passion du Christ... Il y a un engagement, même inconscient, et il y a une forme de prière. Et je pense que Michel-Ange, c'est pareil, quand il a fait sa Pietà, il était dans
c'est
un
une prière de marbre. C'est une prière de marbre,
voilà.
Bien sûr.
Et comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire que chez lui, il y avait une volonté d'évangéliser ou au contraire, il y avait une volonté de remercier pour toute la foi reçue? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Michel-Ange, finalement?
Je ne vais pas mettre à sa place. Mais très certainement, encore une fois, c'était une méditation de Pierre. Et je répète, l'évolution de ces trois piétas montre à quel point c'était une méditation qui le creusait incessamment. Jusqu'à la toute dernière, encore une fois, on n'a pas le temps d'en parler. Mais c'est une vraie méditation chez lui, bien évidemment.
Méditation sur le mystère de la souffrance?
Sur le mystère de la croix, de Jésus, de Marie. Et tout est lié.
Mais quand on parle de méditation, quelquefois on peut imaginer que c'est quelque chose d'un peu désincarné, une méditation, on pense à méditation bouddhiste, etc. Là, c'est l'inverse, en fait. C'est quelque chose de charnel. On entre dans l'expérience à travers notre expérience, donc nos propres expériences de souffrance, de pour passer, parce que c'est le mystère de la Pâque. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des spectateurs qui disaient qu'ils avaient été transformés. En fait, c'est ça qui est...
Il faut que ça change quelque chose.
Voilà. Est-ce que je vis quelque chose? Est-ce que je passe avec le Christ, avec l'Église, avec ceux qui m'entourent, avec l'artiste, d'un état à un autre?
Parce que je crois vraiment que la beauté et la contemplation sont transformante. C'est pas moi qui le dis, c'est le psaume qui regarde vers lui resplendira. C'est l'épître de saint Jean. Alors vous devriez semblable à lui parce que vous le verrez tel qu'il est. Et je crois vraiment que ce n'est pas impunément que Robert Rubka passe des nuits entières. Il a passé des nuits entières tout seul avec une lampe à contempler. Il a été labouré par cette contemplation dans la nuit. La semaine dernière, vous parliez de ce qu'il y a de transformant dans la contemplation nocturne. Bien, c'est exactement pareil. Et Michel-Ange, quand il sculpte des nuits entières tout seul, évidemment, il est pétri par sa confrontation avec une matière qui, tout d'un coup, est illuminée par quelque chose qui le dépasse.
Quel est le sens de ce mystère de la croix? Est-ce une folie morbide ou une libération? Je vous propose une autre illustration, c'est au XXe siècle, c'est Maurice Denis, le peintre Maurice Denis, sa maison a été transformée en musée et on peut y voir un chemin de croix. Regardez ce reportage, écoutez aussi, signé Éloi Rochebrune.
Cette chapelle rachetée en 1914 et entièrement restaurée par Maurice Denis est devenue, comme le peintre le désirait, un réceptacle de la Passion du Christ. Sur les deux murs latéraux, un chemin de croix, 14 stations en 2001, de la condamnation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau.
C'est le premier chemin de croix qu'a fait Maurice Denis. On est au début de la guerre de 14. Ce qui est formidable dans ce chemin de croix, c'est qu'il y a vraiment un caractère très cinématographique. C'est-à-dire qu'on est comme dans une bande dessinée. Et on a ici, à chaque fois, le sentiment à la fois d'un temps arrêté et en même temps d'une action en train de se faire.
La mort sur la croix est aussi représentée sur cette verrière monumentale, derrière le maître-autel.
Le point d'orgue de ce décor, c'est cette monumentale verrière, donc dans la baie d'Axe de la chapelle, qui décline la vie de Jésus. Et cette crucifixion, elle est donc l'aboutissement de toute cette vie de Jésus qui se donne donc pour par amour pour les hommes. Vous voyez ce filet de sang qui coule le long de la jambe et qui s'écoule jusqu'au pied du Christ où Madeleine vient recueillir le sang sacré.
Une scène assez similaire à celle que l'on retrouve sur l'un des tableaux les plus connus de l'œuvre de Maurice Denis, Le Sacré-Cœur crucifié, une huile sur toile datant de 1916.
C'est un Christ au cœur illuminé d'amour. Le Sacré-Cœur du Christ ici, qui est comme un soleil qui monte dans ce grand ciel, en synonyme d'espérance évidemment pour les endeuillés de la guerre et notamment pour les femmes.
Le Sacré-Cœur crucifié est aussi en arrière-plan du dernier autoportrait de Maurice Denis, lui qui rêvait étant jeune de devenir moine peintre, pour, disait-il, célébrer les miracles du christianisme.
Père Philippe de Maistre, une réaction, ce cœur crucifié donc, qui s'illumine, hein, est-ce que ça donne aussi le sens justement de la croix à cette souffrance qui se déroule sous nos yeux? Je voudrais citer notamment cette phrase de saint Paul aux Corinthiens qui dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, il est puissance de Dieu ».
Il y a quelque chose qui se réalise mystérieusement dans le cœur de celui qui contemple la croix, de celui qui rentre dedans. C'est difficile de le conceptualiser, il faut le vivre en réalité, c'est une expérience existentielle. J'ai toujours dans le cœur, vous savez, cette représentation extraordinaire, très différente, qui est celle du retable d'Issenheim.
Bien sûr,
le Grunewald.
Bien sûr. Vous savez, pouvez le voir à Colmar. C'est très étonnant parce que c'est le Christ qui est sur la croix et qui est affecté de la maladie de ceux qui contemplent, c'est-à-dire la maladie des ardents, qui était un pourrissement de la peau comme la lèpre. Et en fait, c'était dans la salle des malades, vous savez, où ceux qui étaient affectés de cette maladie contemplaient le Christ qui portait sur lui, dans sa chair, ce qui les faisait pourrir vivants. C'est une application vraiment d'Isaïe. Il a pris sur lui nos meurtrissures. Et à un moment, le retable se referme, et c'est la vision du Christ ressuscité avec le même Christ, mais la peau est translucide, elle est pure comme la peau d'un bébé. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette contemplation? C'est que vous êtes invité à voir vos propres souffrances prises par le Christ. Et donc, il y a un échange dans lequel il porte nos souffrances, il porte nos morts, il porte nos fardeaux. Nous acceptons de les lui laisser pour qu'en échange, il nous donne sa propre vie. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dans lequel on s'implique, il y a un acte spirituel. Vous voyez, ce n'est pas simplement contempler, c'est entrer dans ce mystère du Christ, le faire nôtre, et c'est ce merveilleux échange dont parle saint Paul, l'échange entre la vie du Christ qui nous est communiquée et cette mort qu'il prend, qui nous affectait et qu'il prend sur lui.
Une réaction, Daniel Courant, Hervé Blanchard, justement, est-ce que la croix, mystérieusement, permet de donner un sens aux épreuves que nous connaissons tous ? Hervé Blanchard.
La croix, nous, la représentation qu'on en a...
Donc la passion de Ménilmontant, je le rappelle.
Sur le spectacle, donc moi, ce qui, à titre personnel, me touche le plus, c'est et je citerai notre texte, hein, Jésus est au bord de l'épuisement, les soldats romains réquisitionnent un passant, un certain Simon de Cyrène. Et c'est le fait que le chrétien porte la croix, et non pas tel l'instrument du supplice, mais tel le message du Christ. Et c'est cette symbolique-là, moi, que je vois dans...
Donc Simon de Cyrène, c'est celui qui aide le Christ, effectivement,
voilà,
à porter sa croix.
On l'a évoqué tout à l'heure.
Daniel Courant.
Oui, bien sûr, mais je dirais que de toute façon, c'est le drame tellement central, à la fois tragique et lumineux, que chacun le reçoit et le médite de façon différente selon les âges de la vie. Quand on a fait l'exposition des photographies de Robert Rubka au Vatican, en même temps, c'était la sortie du film de Mel Gibson dont vous parliez tout à l'heure, qui avait fait un petit peu scandale parce que hyper violent. Et un article de Repubblica titrait « L'altra passione », celle de douceur. Mais les deux sont vrais. Mel Gibson est vrai, c'était vraiment horrible ce qu'a subi Jésus. Et cette douceur, et cette réverbération de lumière que trouve Michel-Ange est vraie aussi. Et selon les moments de la vie, eh bien, on est plutôt amené à vivre l'un ou à vivre l'autre, et toujours, malgré tout, vers une direction qui monte. C'est ça qui est important.
Véronique Jacquier.
Oui, Père Philippe de Maistre, vous avez bien expliqué comment il fallait entrer dans ce mystère et s'associer finalement aux souffrances du Christ pour leur donner un sens. Mais pour ceux qui sont loin de l'Église, loin de la foi et loin du chemin de croix, pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de mourir sur la croix ?
C'est la question de fond, finalement.
Il y a une parole qui l'emploie, il dit « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Dans la Passion de Ménilmontant, il n'y a pas que des chrétiens qui confessent le salut de Jésus-Christ, mais il y a un mystère, et moi je le constate tous les jours comme prêtre. Par exemple, quand on va faire le chemin de croix dans la rue, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'agréger et qu'on ne voit jamais dans les églises. Et le mystère de la croix attire mystérieusement. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe et qui parle profondément à l'expérience de l'homme. Et c'est vrai qu'on a toujours une tendance, il y a toujours un débat, là, celui que vous évoquiez. Notre vie et la vie du Christ, le mystère du Christ, c'est comme une médaille, elle a deux revers. Il y a le côté lumineux, glorieux, et le côté douloureux. Alors on ne va pas à Pâques sans passer par le Vendredi Saint, mais il y a aussi une certaine piété morbide qui s'arrête au Vendredi Saint et qui tend la joue à Nietzsche quand il disait « en fait vous êtes des losers parce que vous mettez un crucifié, donc vous absolutisez la souffrance ». Non, on n'absolutise pas la souffrance, on absolutise Dieu qui passe dans la souffrance pour nous ouvrir la vie et qui en fait un chemin.
Non, pardon, allez-y.
Oui, mais il y a toujours un point d'insistance, peut-être plus ou moins sur l'un des deux revers, en fonction de ce qu'on vit.
Est-ce que les œuvres d'art, que ce soit le théâtre avec la Passion de Ménilmontant ou la Pietà de Michel-Ange, finalement, si elles sont faites avec foi, sont aussi des œuvres missionnaires qui permettent de faire comprendre ce sens de la croix, de la souffrance, des épreuves, Hervé Blanchard ?
Certainement, parce que quand on échange avec le public en fin des représentations, certains nous disent « j'avais aucune culture catholique, aucune culture religieuse, j'ai appris plein de choses et je repars différent d'en arrivant ». Et puis après, on a des spectateurs qui viennent nous voir tous les ans. Tous les ans, ils viennent participer, vivre le spectacle tel que, modestement, on essaye de le...
Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, effectivement, dans l'échange entre
forcément.
Les acteurs et les spectateurs.
Et le retour, c'est vous nous invitez à vous vivez le spectacle. Et du coup, c'est très... incluant. Chacun participe et repart nourri de questions et voilà, chemine après pour trouver les réponses.
Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas rester indifférent quand on voit ce spectacle ou qu'on participe à un chemin de croix. On ne peut pas rester extérieur, Père Philippe de Metz.
Oui, il y a toujours un moment où on est pris. On est comme arraché à nous-mêmes dans un chemin de croix, comme dans une expérience esthétique très forte. Moi, ce qui me touche beaucoup dans le chemin de croix, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y en a un qui va être saisi par le mystère de Véronique, un autre, il sera Simon de Cyrène, un autre, il sera les femmes qui pleurent, un autre, il sera le bon larron qui plonge dans le regard duquel Jésus plonge ses yeux. Vous voyez, donc en fait, il y a dans ce step by step, pas à pas du Christ, eh bien, notre propre cheminement qui est rejoint à l'étape à laquelle nous sommes.
Daniel Courant, je crois, à propos de la Pietà de Michel-Ange, il y a cette phrase, c'est un catéchisme en images.
Oui, c'est le cardinal Poupart qui disait ça en sortant de l'exposition au Vatican. Oui, parce qu'il y a tous les aspects du drame humain spirituel. On en parlait tout à l'heure, mais il y a tout le tragique, il y a la lumière. Et puis, ce qui est important, pour reprendre votre question, c'est que c'est un des mythes universels de la culture. Donc, il y a des gens qui viennent voir l'exposition, qui effectivement n'ont quelquefois jamais entendu parler de Jésus et de Marie. Il y a beaucoup de visites de classe scolaire. Les petits-enfants disent qui est le monsieur, qui est la dame. Et ils viennent parce que c'est un des mythes de la culture. Et tout d'un coup, ils sont confrontés à quelque chose d'abord d'universel, qui parle à tout le monde, parce que c'est d'abord le drame extraordinaire de la compassion. C'est une mère qui a perdu son enfant. Et de temps en temps, sur le livre d'or, on voit des témoignages. Ah, elle au moins, elle a pu le tenir dans ses bras. Donc cette compassion humaine est une entrée extraordinaire pour après mener à, justement, Marie et Jésus.
Il faut dire que, vous avez organisé des expositions à partir de ces photos.
Complètement, des expositions qui sont très impressionnantes, honnêtement. Nous faisons par passion, je ne suis pas Michel-Ange, je ne suis pas Robert Rubka, nous faisons par passion. Ces photographies-là sont projetées dans un espace complètement mis au noir, avec des découpes qui font sortir les photographies de la nuit. C'est très bouleversant. Et tous les témoignages le disent, et toute la presse également.
Père Philippe de Metz, peut-être le dernier mot de cette émission. Comment se préparer justement à revivre ce moment, qu'on soit proche ou éloigné de l'Église, ce chemin de croix? Qu'est-ce que vous conseilleriez?
Moi, je conseille toujours au début de la Semaine Sainte à mes fidèles de choisir un personnage de l'Évangile, de la Passion, et de vivre la semaine avec lui, un peu comme dans un jeu de rôle. Une année, vous serez Marie-Madeleine qui va à distance et qui viendra au tombeau. Une année, vous serez Simon-Pierre qui va faire l'expérience douloureuse de perdre de vue celui qu'il aurait voulu suivre jusqu'au bout.
C'est une belle idée. C'est une belle idée.
Ou une année, vous serez Judas, une année, vous serez... Et en fait, vivez-le, plongez-vous, mettez-vous à l'école de celui qui, comme personnage, eh bien, vous propose un chemin de disciple, de suite du Christ, et vous ferez une expérience, parce que comme lui, comme Marie-Madeleine, vous passerez des larmes à la joie.
Ce n'est pas qu'un chemin de mort, c'est ça qu'il faut retenir.
Vraiment, vraiment, c'est un chemin.
Un chemin de vie. En tout cas, je renvoie à vos ouvrages et œuvres respectives. D'abord, donc, Daniel Courant, Arstella, c'est votre maison d'édition, avec le site internet www.arstella.fr. Et puis, donc, ce livre qui présente les photographies de Robert Rubka et qu'on peut aussi offrir en grand format portfolio. Donc, voilà, vraiment, c'est magnifique. Hein, on ne s'en lasse pas, bien sûr. Hervé Blanchard, La Passion de Ménilmontant, ça se joue jusqu'au 24 mars à Paris, 19e. Un site internet, www.lapassion.fr, et ça se joue dans le 19e, donc dans l'église Saint-François d'Assise, où vous attendez les spectateurs pour aller effectivement communier à votre spectacle.
Oui, venez vivre l'expérience de notre spectacle et dites-nous ce que vous en pensez à l'issue, à la sortie.
Voilà, Père Philippe de Metz, Mourir vivant, une spiritualité de la fin de vie, aux éditions Le Laurier. Puis une annonce, là aussi, concernant effectivement cette passion du Christ, c'est sur le linceul de Turin. Ça se passe aujourd'hui à 16h à l'église Notre-Dame des Armées à Versailles, le 21 mars à Paris, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. À 20h, merci. Et puis, Père Philippe de Maistre, on vous retrouvera pour la messe, la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars, sur l'antenne de C8. Merci à Véronique Jacquier. Un dernier mot sur France Catholique.
Oui, France Catholique à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr, qui fait sa une cette semaine sur les vertus qui reviennent à la mode. On parle toujours des valeurs, mais une valeur n'est portée que par quelqu'un qui a des vertus solides.
Voilà, à découvrir.
Vertus de force, de tempérance, de prudence. Et la quatrième, c'est
Justice.
Voilà, bravo.
Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. La semaine prochaine, nous parlerons justement de la figure de Saint-Joseph. En quoi est-il un modèle pour la prière, pour la famille et le travail? Très bonne journée. Et bien sûr, vous restez à notre écoute.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.